La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bienvenue dans une matinale un peu particulière ce soir, puisque le gouvernement va sûrement être censuré vers 20h. Ce sera la première fois depuis le gouvernement de Georges Pompidou en 62. Cela fait donc exactement 62 ans, et oui, qu'un gouvernement n'a pas été censuré par le Parlement en France. Alors, censure ou pas, réponse aux alentours donc de 20h, nous devrions avoir le résultat du vote à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure ont été déposées, l'une par le NFP, l'autre par le RN. Les députés se prononceront d'abord sur la motion du NFP, parce que c'est celle qui a eu le plus de nombre de signataires. Le vote de cette première motion devrait être adopté en force et en nombre, puisque le RN a annoncé voter la motion de censure du NFP. Si Michel Barnier est censuré ce soir, ce qui est fort probable, vous l'aurez compris, il devra alors présenter rapidement sa démission, mais il restera en poste pour gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Vous avez un goût de déjà-vu ? C'est normal. Après la démission de Gabriel Attal en juillet dernier, nous avions été contraints d'attendre longtemps aussi. Alors combien de temps faudra-t-il à Emmanuel Macron pour nommer un nouveau gouvernement ? Mystère. Marine Le Pen a réitéré en tout cas le refus de son groupe de se joindre à la demande de destitution de la France Insoumise, demande de destitution qui visait donc le président. Autre info importante, les chercheurs à l'école en santé publique de Yale ont trouvé que 314 enfants ukrainiens ont été arrachés à leurs parents et confiés de force à des familles russes pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La CPI va-t-elle requalifier son dossier contre Vladimir Poutine de crime de guerre à crime contre l'humanité ? Nous verrons. Et puis enfin, une info sympa pour survivre à l'actualité de ce 4 décembre. Paul McCartney est en France et donne deux concerts, un ce soir et un demain. Ça fait 6 ans que cette légende du rock n'avait pas foulé le sol français. Avis aux fans des Beatles et compagnie. On arrive tout de suite pour le sommaire. Donc, ce soir, au sommaire. Ce soir au sommaire, un reportage concernant les droits de l'enfance et la lutte contre les violences faites aux femmes de Radio Campus Bordeaux. Une chronique toujours plus drôle de Gauthier. Dans le Zoom, on reçoit Théo, musicien. Et tout de suite, nous recevons le secrétaire général du Secours Populaire du 93 de Seine-Saint-Denis pour parler de l'inégalité en période de fête.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Vincent Blasquez-Pachon, vous êtes donc secrétaire général du Secours Populaire du 93 et vous êtes interviewé par Maïwenn. Bonsoir Maïwenn.
Bonsoir Marine.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Bonsoir Vincent Blasquez-Pachon. Donc comme l'a dit Marine, vous êtes secrétaire général du Secours Populaire 93 et nous vous recevons à l'occasion notamment de la campagne des Pères Noël Verts qui a été lancée le mercredi 27 novembre à Paris. Par le secours populaire français qui donnait le top départ de cette campagne. Le lancement s'est fait à l'occasion du spectacle du cirque Phoenix Cirque Africa, en présence de 4000 enfants et parents accompagnés par l'association. Comment s'est passée cette journée ?
C'est une très belle journée, on fait ça tous les ans. On regroupe l'ensemble des enfants d'Île-de-France, pas seulement le 93. C'est comme ça qu'on arrive à un chiffre relativement important. C'est dans la même logique un peu que les journées oubliées des vacances, et ouais, journées à la mer. Donc on a énormément d'enfants qui sont proposés à travers tous nos comités, notre présence territoriale, et permet donc un moment festif pour ces enfants. Voilà, c'est le premier, le premier, c'est le lancement. Mais il y en a bien d'autres jusqu'à Noël, bien sûr.
Et justement, vous êtes là pour nous expliquer tout ça et nous parler de tous ces événements. Alors donc, pour rappel, c'est le début donc de la campagne des Pères Noël Verts qui existe depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de cette campagne du Secours Populaire ?
Alors cette campagne existe depuis exactement 1976, oui, c'est pas d'hier. L'idée c'est que les enfants dans la pauvreté ou dans les situations difficiles ont aussi droit à Noël. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. On voit dans notre territoire, notamment en Seine-Saint-Denis, une croissance, je dirais, la pauvreté qui est malheureusement continue, 30-40% de familles accueillies supplémentaires, il n'est pas question qu'on ne leur offre pas un moment festif, un moment de plaisir. Alors ça peut être des moments de fête, mais aussi de l'accueil avec des petits colis améliorés, voyez, parce que c'est vrai que en fin de compte ces enfants n'auraient pas cette possibilité. Donc on fait des collectes, on en parlera certainement, des collectes générales, pas seulement financières, des collectes de jouets pour que chacun ait quelque chose au moment de Noël.
Merci beaucoup. Et alors, donc, qui sont les personnes concrètement aidées par le Père Noël vert à l'échelle de la France notamment.
Principalement la France, je peux parler de mes départements, mais bon, c'est le même principe partout de toute façon. Il est clair qu'on a des familles, ce qu'on appelle nous des familles accueillies, c'est plus qu'aider, on les accueille. Le principe, c'est toutes les personnes qui sont en difficulté, qu'elles soient morales, financières ou autres, on essaie de leur apporter du soutien. Et il peut être reposant des sorties culturelles, des sorties sportives pour les enfants, des moments festifs là au moment de Noël bien sûr, des colis alimentaires, mais on n'est pas qu'une association alimentaire, on a tendance à l'oublier. Le but pour nous est en effet d'apporter une aide un petit peu large sur toutes ces familles, parce que quand on n'est pas en situation de financière et même quelquefois tout autre, il faut pouvoir répondre à cela. Ça va jusqu'à la santé. On a des permanences santé dans nos comités qui viennent apporter des solutions avec des partenariats, que ce soit pour la vue, pour des examens. On arrive à leur trouver des solutions. Je crois que cette année, dans notre département, on a pu, par exemple, permettre à 200 enfants d'avoir des lunettes pratiquement gratuitement avec un examen ophtalmologique. Voilà, c'est une des choses qui permet d'illustrer la variété du soutien que l'on peut apporter à nos familles.
Merci beaucoup.
Ce ne sont pas les nôtres, d'ailleurs.
et donc, quand on entend Père Noël, on pense forcément enfants, sapins, cadeaux. Est-ce que c'est une campagne qui est majoritairement à destination des enfants ou...
Il y a 5 campagnes nationales dans le secours populaire. Le Père Noël vert est la dernière de l'année. Mm-hmm. Comme son nom l'indique, elle vise Noël. Elle vise un moment festif pour les enfants. Vert, parce que c'est l'espérance. Et puis, on vient compléter les Pères Noël rouges. Un peu, c'est ça, parce que justement, les familles n'ont pas le moyen de offrir ça à leurs enfants. Et vous savez qu'on voit les yeux pétiller à la mère avec ses enfants, on le voit aussi à Noël. Donc à travers des spectacles, à travers des distributions de jouets, c'est pas seulement des spectacles, ça peut être aussi des sorties, tout simplement, une sortie culturelle, une sortie à Paris. Mais dans le cadre de Noël, alors évidemment, on a tous notre costume vert pour montrer cela et essayer. On a fait plusieurs années, on a fait des colis festifs. Hein. Chaque comité a un petit peu son autonomie pour gérer ça par rapport aux familles qu'il accueille et en fonction des possibilités matérielles qu'il a. Il y a des grands moments franciliens comme cette sortie au Phénix. Il y aura dans un théâtre parisien une autre sortie le 4 décembre. Mais dans chaque comité, c'est un petit peu la force du secours populaire. On est implanté territorialement via des associations qui sont bien sûr, qui font partie du groupement et qui donc sont au plus près des familles. C'est pour ça qu'on a une assez bonne visibilité et maîtrise, j'irais malheureusement, de cette pauvreté qui, depuis 4 ans, augmente régulièrement. Là, en l'espace d'un mois, un an et demi, on a eu à peu près 30% de familles supplémentaires.
Alors justement, simple. On va revenir un peu plus tard sur cette augmentation de la pauvreté. Et alors moi, j'ai une petite question. Qui sont les fameux Père Noël verts? Est-ce que c'est seulement une image ou est-ce qu'il y a vraiment des personnes
nous avons, vous savez, on se nomme animateur, collecteur, bénévole. D'accord. Ça commence par animateur, vous voyez, ça commence fort. Mais collecteur, parce que sans moyens, on ne peut rien faire.
Bien
et
sûr.
Enfin, bien sûr, on est tous des bénévoles. Donc, on s'appelle amis de façon plus simple. Donc, ce sont que des amis du Secours Populaire qui viennent apporter du temps et donc du travail pour pouvoir organiser cela, puisqu'il faut en effet collecter pour pouvoir présenter des spectacles, c'est clair.
Et oui, justement, c'était une de mes questions. Vous l'évoquiez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quel est le financement de cette campagne?
Il est essentiellement par des collectes, par des initiatives. On a fait pas plus tard que hier et avant-hier dans le département une grande braderie qui permet de vendre des produits à des prix relativement compétitifs qui permettent d'apporter des financements. Il y a les collectes pures, soit par le web, soit par les amis eux-mêmes. Des initiatives, ça peut être aussi on fait une On fait une réception avec la vente de gâteaux et choses comme ça, et ça permet d'avoir des recettes. On est assez jaloux de notre indépendance. C'est clair qu'il n'y a pas de subvention pour les panneaux verts. C'est nos initiatives et nos collègues qui sont les financeurs. Bien sûr, il y a les donateurs, et ça, c'est important.
Oui, évidemment.
On essaie d'avoir à peu près un tiers de chaque source en termes de financement pour garder un équilibre pour l'ensemble de nos actions. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour le Père Noël vert.
Et sur cette action-là, en particulier pour compléter l'aspect don, comment on fait si on veut vous rejoindre en tant que bénévole?
C'est très simple. Il y a un site national, il y a un site par fédération. À l'intérieur de ces fédérations, il y a également les comités locaux. Et donc, on peut tout à fait dire, bon, il suffit de candidater par cet accès-là. On peut également faire des dons aussi par cet accès. C'est assez bien organisé pour ça.
Vous avez plusieurs locaux en Seine-Saint-Denis où vous êtes basé?
On a 27 comités locaux avec des locaux justement très variés, puisque ça dépend de la capacité ou de la possibilité que l'on a dans les communes de pouvoir être hébergé ou du moins logé. Certains comités le sont bien, d'autres le sont beaucoup moins, c'est très très hétéroclite. Et puis la fédération elle-même qui vient justement de s'installer à Bondy dans des locaux tout neuf.
C'était en octobre, c'est ça?
C'était en octobre, absolument. C'est un projet qui date de 3-4 ans. En fait, on était dans une location privée précaire. Donc, à 6 mois, on pouvait se retrouver dehors. C'est un peu fâcheux pour une tête de réseau, sachant que c'était à Romainville et qu'il y a une pression foncière, comme dans toute l'Île-de-France, qui est réelle. Et le moins de mètres carrés devient vraiment exploitable par les privés. Donc là, on s'est porté acquéreur. C'est un travail qui a été préparé et puis on a emprunté, ma foi.
Donc on peut vous trouver sur tout le territoire, en tout cas.
C'est strictement le cas. Ouais. Oui. C'est le but, d'ailleurs. C'est la raison de l'existence des comités. Les comités sont les associations, si vous voulez, locales, donc communales le plus souvent.
Oui. Merci beaucoup pour ces précisions. Mais je voudrais revenir sur la genèse un petit peu des Pères Noël verts. Les fêtes de Noël, elles n'accentuent pas en soi les inégalités, mais c'est le sentiment d'injustice qui se fait le plus fort à l'approche des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les ressorts de ce sentiment d'injustice?
Quand vous n'avez rien pour finir le mois et que vous n'arrivez même pas à vous loger ou que vous êtes livré à des marchands de sommeil, difficile de voir les choses un peu plus positives. Donc il est évident qu'il faut au moins préserver les enfants de cela, si on, par certains moments, si on peut apporter quelque chose, un peu de lumière, un peu de joie, c'est indispensable. Alors c'est né comme la journée des oubliés vacances, quelque chose qui est très connu nationalement pour le secours, par le fait que tout le monde a le droit à un mini bonheur, à faire connaître. On a des enfants qui bien sûr n'ont jamais vu la mer, ou c'est assez... vous savez que c'est une journée très difficile pour les bénévoles, parce que c'est une longue journée, et quand vous voyez les yeux qui pétillent le soir en rentrant, vous dites, j'ai pas perdu ma journée. Mmh. Et c'est la même chose à Noël, il y a des images d'enfants, quand vous les voyez, vous dites, voilà. Alors évidemment, les parents, ça va pas résoudre leur position, mais il faut au moins qu'on apporte un petit peu de soleil ou de bonheur dans ces foyers qui malheureusement vivent dans une précarité qui est de plus en plus accentuée.
Bien sûr. Et le dispositif existe depuis 1976.
16, absolument.
Quelles évolutions, ça fait 50 ans, un peu plus même. Quelles évolutions ont eu lieu durant ces 50 ans?
J'étais déjà un grand garçon en 76, j'ai pas tout l'historique. Je pense qu'on s'efforce tous les ans d'amplifier ça, de retrouver des moyens supplémentaires, d'avoir de nouvelles idées, parce qu'il faut être un peu imaginatif. On parle d'animateur, je vous dis, c'est notre premier terme, et je crois que ça, c'est important. Donc, on le voit même dans notre département, chaque comité a une initiative bien particulière. C'est soit la fête dans une salle de spectacle de la ville, soit un lieu culturel départemental où on va faire venir des artistes. Les choses sont vraiment très diverses et très éclectiques. L'important, c'est que on arrive à toucher le maximum et apporter notre grain de bonheur.
Et on vous retrouve tout de suite pour la seconde partie de cette interview, juste après avoir écouté Dear Miss Holloway de Kevin Abstract featuring avec Hard Life.
Oh dear Miss Holloway, you're still on my mind. I reminisce about her.
sometimes you started seeing someone new for a while. I read about it somewhere online. Maybe in another life we could try and roll the dice and get it right. Cause when there's no one else in sight, can't help but think that we might get it right. Cause we're forever near misses, lost a couple of kisses. You were never my missus, but we came kinda close. I've had plenty of fishes, now you're close like my sisters. Send the warmest of wishes, but I keep hitting the post. And you only ever message on my birthday, but when you feel lonely, feel thirsty. You said if we ain't married by 30, we might. I used to think I'd move to Hollywood and end up with a Megan Good before they call me slurs. Same words only Ellen would use. Heaven could use a few cool rude motherfuckers that look like me and you. This that chaos blues, that fairy tale that came true. Way before I had a crew that let me be myself. Dangerous thoughts, but I was bright. I've been ERL, been D4L, even when I was on the DL. I let my dog out on my heart. If you still can't tell, it's easy now, but from the start, it was a pretty big question. Someone else in question, I still let my blessing, y'all.
Holiday de Kevin Abstract featuring avec Hard Life. Et nous revenons donc à notre entretien de la matinale avec Vincent Blasquez-Pachon, secrétaire général du Secours Populaire du 93 de la Seine-Saint-Denis, interviewé toujours par Maïwenn. Et aujourd'hui justement, l'Observatoire des inégalités, c'est une information qui est parue aujourd'hui, nous explique qu'il y a plus de 5 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc Maïwenn, il me semble que tu veux justement poser des questions à cet égard par rapport à la Seine-Saint-Denis.
Et oui, justement, donc le chiffre est tombé aujourd'hui. Il y avait aussi le baromètre de la pauvreté et de la précarité Ipsos Secours Populaire qui est sorti récemment et qui avançait le chiffre de 62% de Français qui déclarent avoir connu la pauvreté ou avoir été sur le point de la connaître. Donc ce sont des chiffres très importants qui sont en hausse par rapport à l'année dernière. Comment le Secours Populaire réagit face à cette réalité ?
C'est pas d'aujourd'hui, malheureusement. La crise du Covid a montré déjà un fort accroissement, et c'est vrai que les gens ne pouvaient même plus travailler, donc c'était très très compliqué. On s'était dit ça va un peu retomber ensuite, mm-hmm. Et non, ça ne fait que monter entre 20, 30, 40% là sur un an et demi, c'est 40% d'augmentation. C'est colossal.
Alors, 40% c'est le nombre de familles accueillies, c'est ça.
Donc ouais. Derrière ces familles, en général, quand vous avez une famille et dans la population à Seine-Saint-Denis, c'est souvent 4-5 personnes minimum qu'on touche, mm-hmm. quand c'est pas plus. Parce que quelquefois, c'est facteur 6 ou 7. Donc ça fait tout de suite un volume assez conséquent. Pas simple. On a reçu de plus en plus de dons. On pensait que ça allait aussi retomber. Heureusement, la générosité ne baisse pas. Mais par contre, l'aide globale que l'on reçoit, notamment par les instances européennes, elle est en continuelle baisse. Donc ça devient un petit peu difficile. Mais bon, on baisse pas les bras. On trouve le moyen de. On réfléchit à des achats groupés, sachant qu'évidemment, on ne remplacera pas l'aide alimentaire directe qu'on reçoit de l'aide européenne, enfin les 4-5 grandes associations qui peuvent en bénéficier. Et puis le bénévolat aussi, il est toujours là, hein, 2200 bénévoles pour 125 000 heures de bénévolat, oui, c'est la réponse.
Ce chiffre, c'est à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, c'est
oui,
ça,
c'est ceux de la Seine-Saint-Denis, oui, c'est oui. Pas national.
On est me disais plus... que c'était pas beaucoup sinon.
Non, on est beaucoup plus que ça au niveau national, on est près de 90 000 au niveau national en bénévolat. Si on raisonne national et l'international, parce que le secours est également à l'international, on a à peu près de 4 millions de personnes que l'on touche directement ou indirectement par nos aides au niveau national et par notre action à l'international. Donc la Seine-Saint-Denis, oui, c'est sûr qu'il y a des disparités entre les villes. On a 27 comités et il y a à peu près une dizaine de communes sur lesquelles on n'est pas présent. C'est un fait, on essaie de gagner, on a créé des nouveaux comités, mais ça, c'est en fait compte, c'est de la création spontanée. Il y en a quelques-uns qui sont nés au moment du Covid parce que les gens ne sortaient plus, on allait leur porter des colis alimentaires chez eux. Vous voyez, donc malheureusement, il y a la population dont la pauvreté s'accroît. On est aussi un territoire d'accueil, d'accueil au moment des crises. On a des réfugiés qui arrivent chez nous. Il y en a bien sûr dans toute la France. Alors, je ne sais pas si c'est Roissy qui favorise cela, mais c'est vrai qu'on a quand même ce genre de population. Et ça, c'est pareil. En général, ils arrivent, ils n'ont pratiquement pas de droits.
Oui,
d'ailleurs,
sûr.
C'est ce qui nous inquiète un peu concernant les éventuelles mesures. Après, elles ne risquent pas d'être votées ce soir, ça c'est clair. Mais l'AME, c'est un vrai souci. Si ça disparaît, c'est un problème de santé publique et ce serait une erreur terrible. Et là, on a reparlé avec notre référent de santé fédérale. C'est vrai que c'est un vrai souci.
D'accord.
On ne sait pas comment... J'espère qu'ils vont un peu avoir de sens pratique sur ça.
On espère. Alors justement, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France et le plus jeune. On en parlait avant le début de l'émission pour que les auditeurs sachent tout. Quels sont les enjeux spécifiques à la période hivernale dans le département ?
Le plus pauvre, le plus riche, oui, en métropole. Mais sa jeunesse, c'est sa richesse. Alors, période hivernale, il y a bien sûr les sans-abri. Les hôpitaux sont souvent les refuges extrêmes quand il n'y a pas d'autre solution. On a certains comités qui font des maraudes. On a même lancé cette année, on va démarrer une expérience de repas chaud. Avec un tricycle, on ne sait pas, dans une ville où on a cette possibilité d'accueil, il est évident que le froid ne peut qu'amplifier les problèmes de santé et les problèmes d'habitat. Alors ça, le secours ne résout pas l'habitat, mais on essaie au moins d'apporter de la chaleur et des conseils pour essayer de pallier à ça. Ce sont les hôpitaux qui sont les structures vraiment pour les sans-abri. C'est ce
D'accord.
qui se passe en fait. Et c'est
et
pas
alors,
simple.
Justement, vous avez dit le secours populaire ne règle pas la question de l'habitat. Est-ce que vous êtes comment vous coordonnez votre action avec d'autres acteurs sociaux dans le 93 ?
Il y a d'autres structures qui répondent à cela. Nous, on ne l'a jamais fait. C'est pas dans nos possibilités. Bon, je sais que les restos ont commencé cela, mais c'est pas. Et puis il y a des filières. Alors il y a le fameux 115, mais il y a une filière à côté de cela, et on voit bien que le 115 est complètement débordé. Donc c'est vrai que c'est pas simple.
Oui, bien sûr, et merci beaucoup. Justement, donc le département de la Seine-Saint-Denis est aussi le plus jeune de France métropolitaine. Or, la pauvreté et la jeunesse sont des enjeux croisés. Le baromètre de la pauvreté, Ipsos Secours Populaire le rappelle encore, puisque 79% des Français estiment que les risques sont plus élevés pour les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi au niveau de l'accueil du secours populaire ?
C'est évident. Et puis, il y a l'accès à l'éducation. On est, alors, On a une antenne qui dépend de la fédération à Paris 8. Mmh. On parle des petits enfants, mais il y a aussi des étudiants. Je veux dire qu'il y a une pauvreté réelle, et je veux assurer que là aussi, ça n'a pas baissé. On n'est pas présent à toutes les facultés. Ça dépend d'elles, mais c'est clair que c'est aussi un gros souci. Alors, il y a des communes où l'inscription à l'école n'est pas évidente.
Pourquoi ?
Il y a quelques élus qui de temps en temps ont eu le. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans cela, mais très clairement, on essaie, nous, dans la mesure du possible, d'éclairer. Alors, c'est l'accès au droit. On n'est pas là pour suppléer ou remplacer une administration, mais au moins pour éclairer, avec nos modestes moyens, les familles sur les droits qu'elles peuvent obtenir. Et c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément full francophones. Donc c'est voilà. Alors on n'est pas là pour suppléer les services sociaux, mais on est là en tout cas pour apporter et éventuellement leur donner des orientations pour aller faire valoir les possibilités qu'elles ont.
Bien sûr, et la question de l'accès au droit, elle est fondamentale. On recevait justement il y a 2 semaines Petit Frère des Pauvres sur cette question. Il y a la question de l'aide, mais aussi de l'accès au droit. Moi, je voudrais revenir sur les quelques minutes qui nous restent à la campagne des Pères Noël Verts. On a parlé de comment cette campagne s'organisait partout sur le territoire, mais alors justement, en Seine-Saint-Denis, comment ça se met en place concrètement ? Quel est le calendrier des actions ?
Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Chaque comité va avoir ses propres initiatives. Toutes les initiatives ne sont pas forcément coordonnées par la fédération. Il y a les grandes initiatives régionales où, bien sûr, on participe. Il arrive aussi que la fédération peut s'engager sur une action bien particulière en réservant un spectacle ou une grande fête. Mais les comités ont cette marge de manœuvre, et c'est l'intérêt de cette présence locale dans les communes. Donc d'être adapté, d'avoir des réponses adaptées à la fois à leur territoire et aux familles qu'elles accueillent, qu'elles connaissent bien. La fédération est là, comme son nom l'indique, pour fédérer, pour mettre en mouvement tous nos amis dans les différents comités. Mais bien évidemment, quand vous connaissez bien un territoire et que vous connaissez les familles que vous accueillez, vous avez beaucoup plus de possibilités à la fois de mettre en mouvement les bénévoles pour cela, et de proposer aux familles. C'est un petit peu la difficulté que l'on peut rencontrer quelquefois, arriver d'avoir suffisamment de temps pour leur proposer et les faire adhérer sur telle ou telle sortie. C'est pas toujours évident, ça. Sortir en Seine-Saint-Denis, d'abord parce qu'il n'y a pas toujours des lieux faciles d'accès, il y a des problèmes de transport, même si ça s'améliore, c'est pas encore tout à fait gagné. Donc voilà, je pense que notre maillage de territoire est une richesse aussi en termes de possibilités d'action et d'intervention auprès des familles. C'est comme ça que je vois les choses.
Merci beaucoup. Alors cette campagne, elle a commencé donc le 27 novembre dernier, et elle dure jusqu'au 31 décembre, si je ne me trompe pas.
Elle se poursuit jusqu'à la fin de l'année, absolument.
D'accord.
Absolument.
Et est-ce que le soir les soirs de Noël, le soir du Nouvel An, est-ce qu'il y a des actions particulières
Alors là aussi,
en place,
je vais revenir aux libertés d'action. C'est très local, comités, c'est en fonction des possibilités qu'il y a. Il y a des choses qui vont se faire le 30 décembre, d'autres le 21. Je ne cache pas que le 25 décembre, en général, il se passe rien. Parce que bon, c'est un peu plus compliqué, les gens sont en famille, mais sinon il n'y a aucun frein par rapport au calendrier.
D'accord, merci beaucoup Vincent Blasquez-Pachon. Pour rappel, vous êtes secrétaire général du Secours Populaire 93, et nous avons parlé de la campagne des Pères Noël Verts. Alors chers auditeurs et chères auditrices, engagez-vous avec le Secours Populaire, pensez à donner, à collecter, à pourquoi pas devenir bénévole.
On a besoin de bénévoles et de jeunes.
Et de jeunes surtout pour essayer de combattre un petit peu les injustices qui se font encore plus dures à la période de Noël.
Engagez-vous, Noël, c'est aussi le moment donc de penser aux autres. Et on écoute Ville Fleurie de World Brain sur Radio Campus Paris. Merci Maïwenn, merci Vincent.
Merci de nous avoir reçus.
Le temps.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Vous avez écouté Ville Fleurie de World Brain. Et tout de suite, nous allons écouter un reportage de Radio Campus Bordeaux dans le sillage de la Journée mondiale des droits de l'enfance et pour l'arrêt des violences faites aux femmes. Mathieu Barthélémy de Radio Campus Bordeaux a rencontré une association de Mayotte, Aziza Wanatsa. On écoute Rasmina Oumadi Wali, elle-même victime de viol. Elle avait 13 ans, son agresseur 39.
Dans le sillage des Journées mondiales des droits de l'enfance et pour l'arrêt des violences faites aux femmes, nous avons rencontré une association venue de Mayotte, le 101e département français, Aziza Wanatsa, qui signifie les droits de tous les enfants en Chimaoré. En lutte contre le viol et pour la protection des mineurs, elle est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant qui fête ses 35 ans. L'association a parlé au Sénat et à l'Élysée par la voix des plus jeunes. Leur campagne, hashtag WAMITOO, révèle une situation alarmante des mineurs et des femmes victimes de violences sexuelles à Mayotte et qui nécessite la mise en œuvre des dispositions éducatives de la loi Aubry ainsi que des moyens publics pour une prise en charge réelle du problème. Les chiffres des violences sexuelles mieux connus depuis le rapport Civis sont aggravés sur l'île par une crise d'accès à l'eau qui laisse familles et écoles bloquées et sans moyens pour la sécurité des enfants. Les pénuries d'eau, les carences d'investissement public, des problèmes de corruption, une crise migratoire et environnementale ont précipité les choses depuis 10 ans. Leur enquête auprès de 900 mineurs le confirme sur wamitoo.yt. Rasmina Oumadi Wali lance cet appel pour Aziza Wanatsa.
Je m'appelle Rasmina, j'ai été invitée au Sénat vendredi dernier pour porter la parole de la jeunesse mahoraise. C'était quand même une opportunité qui n'a jamais été laissée aux jeunes de Mayotte de pouvoir parler devant des ministres de la famille et devant les parlementaires au Sénat, devant les responsables de la protection des droits des enfants, que la jeunesse s'engage de plus en plus pour Mayotte. Ça nous permet, comme aujourd'hui par exemple, d'être reçus à l'Élysée par le conseiller de l'éducation nationale pour faire entendre notre voix, mais aussi la peur qu'on peut ressentir en vivant sur ce territoire du manque d'eau, du manque d'infrastructures, puisque la ministre demandait des données. Nous, on a pu donner des chiffres parce qu'on travaille notamment sur les manquements en termes d'accès aux droits des Mahorais, plus particulièrement à l'égard des violences sexuelles faites aux enfants. Donc forcément, il y a des attentes à l'égard du gouvernement, à commencer par le rattrapage en termes de droits communs. Il faut savoir que Mayotte est le département le plus jeune et le plus pauvre de France. 80% de la population a moins de 20 ans et 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Sur l'île, une grande partie de la population vit sans eau ni électricité. Et l'eau est rationnée plus de la moitié de l'année. Et les maladies liées à la qualité de l'eau comme le choléra réapparaissent. Si je vais sur le plan de la santé, c'est encore plus inquiétant. Entre 10 et 12 ans, un enfant sur 10 est en situation d'insuffisance pondérielle. Et je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les insuffisances de l'hôpital, de la pénurie de médecins. Parce que oui, il n'y a aucun ophtalmologiste pour les 300 000 personnes de l'île. Et les défis de la malnutrition, c'est vraiment beaucoup de choses. Et dans l'éducation, juste pour faire un petit rappel, qui est le lieu de socialisation des jeunes par excellence, 2/3 des habitants sont en âge d'obligation scolaire. Or, 5 à 10 000 enfants ne sont pas scolarisés. Les 3/4 des jeunes de 17 ans ont des difficultés en lecture. Nous, ça nous met vraiment dans des positions très compliquées. Il est insupportable aussi de constater que 60% des jeunes non scolarisés sont exposés à la prostitution et que cela concerne aussi 1/4 des jeunes scolarisés. Et encore, 1/4 des femmes de 20 à 54 ans sont des mères isolées en grande précarité. Une femme a environ 4 à 7 enfants. Nous vivons dans le 2e département le plus touché en termes de grossesse précoce et d'IVG sur mineurs. Donc, vous comprenez que je peux continuer comme ça longtemps. À propos des enfants placés, qui est un véritable angle mort des politiques publiques locales, à propos de la santé mentale des jeunes qui ne bénéficient d'aucune évaluation à ce jour, ni aucun indicateur de référence, ces problématiques sont nombreuses et sont trop souvent instrumentalisées. Donc, aujourd'hui, je crie à l'aide parce que la caricature de cette instrumentalisation, c'est le rapport à l'immigration qui devient dans la bouche de nos responsables politiques locaux et nationaux, je tiens à le préciser, l'alpha et l'oméga de tous les problèmes. Donc vraiment, Mayotte a besoin d'aide et j'espère que mon cri de ce vendredi au Sénat a bien été entendu et que les ministres et tous nos représentants vont prendre les choses en main pour pouvoir changer tous les problèmes. Nous, la jeunesse mahoraise, on a besoin d'un monde moins violent et plus juste. En fait, si je peux juste vous dire ce dont on a besoin en une seule phrase, nous avons soif.
Merci à Rasmina Oumadi Wali de l'association Aziza Wanatsa pour son appel. Et tout de suite, nous recevons dans le Zoom Théophilius, interviewé par Garance.
Bonjour, bonsoir Théo.
Dans la matinale de 19h.
Garance qui est pressée d'interviewer Théophilus. C'est génial, donc Théophilus, musicien. Garance, je t'en prie.
Donc bonsoir Marine, bonsoir à toutes et tous. Alors donc dans le Zoom, nous accueillons l'auteur, compositeur et interprète Théophilus, donc de son vrai nom Théophile Fauchère.
Bonsoir.
Bonsoir Théo. Tu as sorti début 2024 un premier EP autoproduit et particulièrement réussi, intitulé Ravalement de façade. Et on t'accueille aujourd'hui pour la sortie prochaine de ton nouvel EP Chou 3000.
Oui.
Donc tu seras notamment en concert à la Java le vendredi 6 décembre prochain avec Amoué et Louis Victor.
Exactement.
Mais avant de parler de ton dernier EP, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Tu as grandi dans le sud-est de la France, donc au soleil, Montpellier comme moi. C'est quoi ton premier souvenir de musique enfant? Est-ce que tes parents écoutaient beaucoup de musique?
Ouais, la famille du côté de ma mère sont des musiciens à musique classique. Et mon premier souvenir, c'est un album de jazz de Michel Petrucciani, un pianiste jazz.
Ok.
Voilà, premier souvenir.
et donc toi, tu jouais de la musique?
Ouais, du violon. J'ai commencé le violon à 4 ans, de mes 4 ans à 12 ans. Et puis après, j'ai fait de la guitare de mes 12 à 18 ans. Avant de découvrir les ordinateurs et les machines pour faire de la musique.
Et t'as fait une école de musique
non.
Ou c'était tes parents
Ouais, j'ai fait une école de musique étant jeune, une école de violon, puis j'avais un prof de guitare, mais pas de conservatoire, et puis après je me suis entraîné tout seul grâce à YouTube.
Et à l'adolescence, c'était quoi ton rapport à la musique?
Beaucoup de rock, énormément de rock, beaucoup des Strokes, beaucoup de Pete Doherty, beaucoup de musique, du rock anglais aussi.
Ok.
Ouais.
Mais là, à ce moment-là, t'en faisais avec d'autres ou c'était tout seul?
J'ai eu quelques groupes, mais ça n'a jamais été très productif.
Et après le bac, par contre, tu choisis pas la musique alors que ça occupe une grande place dans ta vie.
Mmh.
Qu'est-ce qui fait que tu te lances pas dans la musique et c'était pas assez sérieux parce que tu l'avais même pas envisagé?
Ouais. J'ai passé un bac, mais option musique quand même.
Okay.
J'étais déjà là. Et grâce à l'option musique, j'ai eu mon bac parce que j'ai eu 20 sur 20. Et ça, c'est pas
rare.
après, je pense que je voulais. D'abord, avoir une expérience professionnelle ailleurs. La musique, c'était...
Tu fais des études?
Ouais, je fais des études de géographie, d'histoire, à la fac.
Donc pas d'IRTS?
Pas d'IRTS, pas tout de suite, c'est arrivé après, à Marseille, l'école de travailleur social.
Mais par contre, t'as continué la musique en parallèle de tes études, puis... De ton travail?
Ouais, c'est ça, toujours en parallèle, plus ou moins. J'ai toujours composé, quoi, pour moi, dans ma chambre, c'est des petites compositions, mais ça n'a jamais
été... Et tu le montrais aux autres ou c'était au secret?
Ouais, aux amis. Je composais pour les anniversaires et pour les nouvel an. Il y a toujours des petits tubes à composer.
et tu décides de te lancer dans la musique en 2021-2022?
Ouais, en gros.
Pourquoi à ce moment-là? C'est quoi le déclic?
Le déclic, c'est j'ai trop travaillé. Je pense que j'ai fait une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Peut-être avant, je sais pas à partir de quand on détermine que c'est un burn-out, mais je voulais m'arrêter et partir de Marseille où j'habitais et me consacrer qu'à la musique. J'avais la chance d'avoir un chômage et j'ai fait que ça, et notamment de la musique de film, un peu de pub, mais pas trop, parce qu'en fait j'étais nul pour faire de la pub et pour de la danse aussi. Ça c'était assez intéressant. J'aimerais continuer là-dedans.
Wow, ok. Et du théâtre aussi,
Et du théâtre, ouais, exactement.
Et comment tu définirais ton univers musical aujourd'hui? Est-ce que c'est la pop électro, c'est aussi ce que t'écoutes?
Ouais.
Parce que là, tu parlais beaucoup de rock, mais finalement, t'as jamais fait vraiment de rock.
Ouais. Bonne question. J'écoute trop de styles de musique en même temps.
Ce qui était bien,
c'est hétéroclite. Mais là, je suis passé par la pop pour le ravalement de façade. Et là, j'aimerais m'orienter plus vers la post-punk, le rock, enfin ce genre de style qui me correspondent plus pour l'instant. Mais après, ça dépend aussi de mes humeurs, quoi, mes inspirations.
Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu quand même de l'EP Ravalement de façade qui est sorti donc en début d'année. Donc tu dis c'est un projet imaginé comme un nouveau départ, refaire sa façade plus lisse, plus cosy et mieux isolée. Est-ce que la musique, ça peut être une forme de thérapie, de consolation?
Je sais pas si ça l'est pour moi. Enfin, je sens que ça l'est, mais c'est quand j'ai des, quand je ressens des choses assez assez fortes que c'est là où ça sort pour moi. Et ouais, c'est souvent le moment où il faut pas. D'ailleurs, c'est aussi un moment où quand je dois vite partir à un rendez-vous hyper important, c'est là où ça vient, quoi.
Okay.
Et donc il faut que j'arrive à trouver des rendez-vous immanquables pour composer.
Et finalement, qu'est-ce qu'il raconte cette EP ? Parce que ça parle de rupture amoureuse.
De... Ouais, alors ça parle de rupture amoureuse, ça parle de reconstruction, il y a un peu d'autodérision parce qu'on a l'impression d'aller mieux très vite, alors en fait pas du tout.
De changement de trajectoire aussi.
Changement de trajectoire, un peu d'une libération aussi, ça parle des applications de rencontres où on a l'impression que ça va nous aider à aller mieux, plus vite. C'est assez négatif mine de rien parce que ça finit sur une chanson où en fait c'est dit que ben on peut pas trouver aussi vite et que je reste seul et qu'en réalité mon besoin est d'être seul, ce que je n'arrive pas vraiment.
Ouais, parce que justement j'allais te demander enfin pourquoi la solitude c'est une quête alors que pour moi on commence seul et enfin
ouais.
Donc ça veut dire qu'il faut aller la chercher.
Ouais ouais.
Et dans une forme de positivité où tu l'as.
Ah ouais, moi j'en ai besoin vraiment de manière positive. Ça me fait du bien de me retrouver seul et de me recharger. C'est quelque chose que je n'arrive jamais à trouver en fait. Mais j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à le trouver, mais que cette quête me permet de trouver le bonheur quelque part.
Et tu dis aussi dans Last Time que t'es pas rancunier. Du coup, pardonner, c'est facile.
Ça n'a pas été facile du tout. Mais maintenant, c'est bon, c'est fini.
Et donc ton dernier EP qui n'est pas encore sorti,
ouais.
Chou 3000, il raconte quoi ? Parce que moi je ne l'ai pas encore...
Ouais, bon, ça parle toujours un peu d'amour, ça parle aussi du temps qui passe, du temps qui compresse. En fait c'est un peu la suite, en gros, de ravalement de façade.
Donc toujours avec un peu ce ton décalé.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc justement, comment est-ce qu'on fait de l'autodérision en musique ?
Je pense que j'ai du mal à être sérieux quand je fais de la musique. Du coup, ça me rassure pas mal de faire de l'autodérision. Mais je parle. Tu vois, là, récemment, j'ai fait une chanson qui est sortie il y a pas très longtemps, qui sur la planète Doradia. Donc, je suis je vais sur une galaxie qui s'appelle Doradia et je viens libérer ou tuer tous les Doradiens, tout dépend de notre interprétation. Et dans l'album, je parle du sud, du Bartas, c'est un terme très spécifique au sud que seuls les sudistes
que
connaissent.
Oui,
que je connais ce terme de Bartas.
Ça veut dire quoi du coup ?
Le Bartas, c'est le sud un peu qui pique, quoi, avec les plantes qui sont un peu arides.
Avec les cactus, alors, comme dans les westerns.
Ouais, alors il n'y a pas vraiment de cactus dans le sud, mais c'est un peu similaire, quoi.
Ah, il y a le Colorado provençal, quand
même. Ouais, ouais.
Donc t'es nostalgique du sud de la France.
Parfois, ouais, ouais, ouais. En vivant à Paris, en tout cas, ouais.
Ça, on comprend.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton processus de composition ? Comment, parce que là, tu as commencé à en parler, mais qu'est-ce qui fait que tu vas lancer tes paroles, ton EP dans telle direction ?
Ouais.
Est-ce que c'est plutôt les paroles, l'écriture qui arrive en premier, ou est-ce que c'est la mélodie et puis les paroles viennent après ?
Souvent, c'est un beat de batterie, je dirais. Qui m'inspire. Ouais. Il y a plutôt, je suis pas batteur du tout. C'est un instrument qui me fascine et du coup je pense que c'est ça qui m'inspire au tout début. Et ensuite vient la basse et puis tous les instruments qui viennent autour et la voix vient toujours en dernier. Souvent c'est du yaourt monumental et je viens poser des mots sur ce yaourt là. Donc je suis pas un bon parolier du tout. Je pense que je suis plutôt attaché à la mélodie des mots avant le sens. Mais voilà, c'est mon style.
Mais bon, souvent, ça vient ensemble, donc c'est difficile aussi de dissocier les deux.
Ouais, et ces paroles-là arrivent au moment de la composition et de ce que je ressens sur le coup, donc c'est des choses un peu vraies sur le moment, quoi.
Et du coup, je suppose que tu te nourris un peu de tout ce qui t'entoure, même pas que de la musique, finalement, ou de ce qui t'arrive.
Ouais, ouais.
Ce que tu vois.
Ce que je vois, la vie. Ouais, 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 bien sûr, ouais. Les films, je regarde pas beaucoup de films, mais je pense que je suis assez sensible au monde quoi, qui m'entoure, les inégalités.
Parce que t'es travailleur social.
Je suis travailleur social, ouais, le jour.
Et justement, comment ça communique avec la musique ? Qu'est-ce que ça influence ? Ou pas, hein, mais.
Bah, je pense qu'en étant travailleur social, j'ai une sensibilité aux injustices.
Après, j'évite de mélanger les deux. Enfin, je veux vraiment pas. Mmh. En tout cas, dans mon travail, je veux pas mettre la musique dans ce travail social. Et ni...
Oui, parce que tes textes, c'est pas des textes à message ou.
Pas du tout. Non, pas du tout.
Donc, pas de poète engagé. Ou...
Non, 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 non. Ça, j'arrive pas et ça sonne vraiment faux quand je le fais.
Donc, okay. Je comprends. Et. Ouais, donc tu t'es éducateur spécialisé.
Spécialisé, c'est ça ouais. Ouais, ouais. Dans un centre d'hébergement pour des femmes victimes de violences conjugales. Voilà, et des femmes isolées avec des enfants à Gare de l'Est.
Mm. Ok, très bien. Et donc tu as sorti, tu m'en parlais tout à l'heure, une collaboration avec Baramus
ouais.
d'Aradia.
Ouais.
Et donc est-ce que tu pourrais me raconter un peu comment tu l'as écrit ?
Alors ouais, d'Aradia, donc j'habitais à Marseille à l'époque. Et on essayait de pêcher du poisson, et le poisson, le graal du poisson, c'est la dorade. On n'y arrivait pas, on a essayé toutes les techniques. Il y avait un pêcheur aguerri qu'on appelait Poséidon, un beau Marseillais qui nous avait expliqué qu'on pouvait pêcher avec de l'emmental. C'était vraiment la technique du sud. Et donc on a essayé, mais ça ne marchait toujours pas. Je pense qu'on était vraiment trop nuls. Et donc on est rentré un peu dépité, et on a composé Doradia en s'imaginant pêcher des poissons dans la galaxie. Au moins, peut-être que ça marcherait, quoi. Voilà, mais c'était un peu, ouais, voilà, c'est un peu l'idée.
Et pour finir, c'est qui les artistes qui t'inspirent aujourd'hui?
Ouais, là, actuellement...
Peut-être juste un.
Un, ouais, okay,
juste un artiste.
Alci.
Ok, Alci. Super. Et un EP donc, qui fait voyager dans des paysages fictifs Chou 3000. On va écouter Cabbage Love. C'est une exclusivité, jamais diffusée, jamais entendue. Cabbage Love, le chou amoureux ou l'amour du chou? Tu dirais ça comment?
Le chou amoureux.
Le chou amoureux, ouais. Très bien. Le chou amoureux Cabbage Love de Théophilius.
Thank you.
Le chou amoureux. Merci Théophilius Cabbage Love. Et tout de suite, nous allons avoir...
La matinale de 19h.
Et tout de suite, nous allons avoir donc une chronique de Gauthier pour vous taper le flanc, pour rigoler.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 54e chronique sur ces ondes et cette semaine j'aimerais m'engager. J'ai entendu ça et là que par quelques collègues humoristes qu'ils et elles avaient du mal à trouver de l'inspiration pour écrire leur chronique, que apparemment au bout d'un moment c'était difficile de trouver de nouvelles idées. Je tiens à dire que c'est faux et je voudrais prendre mon cas personnel. En effet, parce que j'en suis à ma 3e année sur Radio Campus Paris et je vous informe que même si dans ma première chronique j'étais déjà très drôle, j'ai réussi à garder l'inertie pour la deuxième. Pendant la troisième, j'ai récolté plusieurs rires. Après ma 4e chronique, l'hilarité était présente dans le studio. Lors de ma 5e chronique, j'étais toujours à mon prime. C'est seulement lors de ma 6e chronique que je suis entré dans le Hall of Fame des humoristes de Radio Campus Paris, titre que j'ai évidemment confirmé au moment de ma 7e chronique. L'évolution logique, c'était bien sûr de faire la 8e, la 9e et la 10e chronique qui ont toutes, sans exception, été des succès. Alors oui, la 11e chronique... elle a fallu l'unanimité. Mais par contre, si on doit mentionner la 12e chronique, là, j'avoue qu'on a été sur une masterclass. Mes premiers doutes, je les ai eus quand j'ai fait ma 13e chronique, mais ils ont bien vite été dissipés par ma 14e chronique. Et puis là, c'était enfin parti. 15, 16, 17, 18, 18. 18.
18, 18 ans, la majorité.
19, puis enfin, c'était parti. Là, 19 chroniques, on nageait en plein bonheur. Alors c'est vrai qu'il paraît bien loin hein, ce temps de ma 21e chronique. Que de temps a passé déjà depuis ma 22e intervention sur cette antenne. Je me revois déjà jeune à faire ma 23e chronique sans penser qu'un jour, peut-être, j'arriverai enfin à ma 24e chronique. Et puis est venue la 25e chronique et après elle la 26e, la 28e, la 29e. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin et cette fois-ci... c'est la deuxième dizaine qui a dû tirer sa révérence pour laisser sa place à la première chronique de la troisième dizaine qui porte le numéro 30. Et là, patatras.
Et là, c'est le drame.
31, 32, 33, les chroniques se sont enchaînées, ne se sont pas ressemblées. Aucune panne d'inspiration n'était à l'horizon. Comme le disait Alpha Diallo à sa conseillère d'orientation, oui, oui, oui,
non,
oui, oui, Madame Pavochko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavochko. Et c'est une phrase que j'ai continué de suivre pour écrire, réaliser et interpréter ma 34e chronique.
C'est ça qu'on veut.
Jusqu'à arriver tout doucement à ma 35e chronique. Et je peux attester qu'après 36 chroniques, les idées ne tarissent pas. Je tiens même à dire qu'au bout de 37 chroniques, il est toujours possible de faire rire ses camarades. Je peux même... vous précisez qu'à 38 chroniques, ça fonctionne encore très bien. Et je suis témoin qu'après la 39e chronique, le cerveau est toujours plein à craquer. Attendez.
En ébullition.
Oui. Sylvie à la régie, qu'est-ce qu'il y a? Merde. Désolé, j'ai oublié de mentionner ma 20e et ma 27e chronique. Désolé, je vais être contraint de recommencer ma plaidoirie depuis le début parce que sinon vous allez rien comprendre avant ma narration. En plus, je trouve
ça
que j'étais pas à fond dans l'implication. Je pense que je peux mieux faire. Et je vous informe que même si ma première chronique était déjà très drôle, j'ai réussi à garder l'inertie pour la deuxième. Maintenant, pour la troisième, j'ai eu plusieurs rires.
Ok, merci, merci Gauthier, merci beaucoup. Donc c'était Gauthier, il nous a fait du Gauthier, on adore. Merci à Sylvie Argibet, à la Réal. Merci
la matinale de 19h.
Merci à Mathieu Barthélémy de Radio Campus Bordeaux pour avoir réalisé le reportage sur l'association... sur l'association Akiza Wanatsa, association engagée donc pour les droits de l'enfant et contre les violences faites aux femmes. Merci à Mai Wen, coordinatrice de la matinale, pour avoir interviewé le secrétaire général du Secours Populaire de la Seine-Saint-Denis. Rejoignez-les, ils mènent en ce moment leur opération Père Noël Vert. Noël, c'est aussi le moment de penser aux autres. Et on a entendu Cabbage Love en exclusivité de Théophilus. On s'en souviendra quand il sera célèbre. Il était interviewé par Garance. Allez, à plus.